Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de VOA Afrique, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 27 novembre 2014. Au micro, Bagassi Koura et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, au moins 16 otages dont un missionnaire polonais enlevé ces deux derniers mois par des rebelles centrafricains ont été libérés.
Six casques bleus et un Congolais ont été arrêtés hier après-midi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour détention illégale d'uniformes de l'armée congolaise.
Appel de la Sierra Leone à l'envoi de militaires américains pour l'aider à faire face à l'épidémie d'Ebola.
Et en Guinée, le président ne veut pas de manifestations de rue en temps d'épidémie d'Ebola.
Si vous voulez discuter d'une loi électorale, c'est au Parlement. Si vous voulez discuter de la tennis, c'est au Parlement. C'est pas dans la rue. Tout le monde est député. C'est au Parlement qu'on doit discuter.
Voilà, c'est au Parlement qu'on doit discuter. Mauvais temps sur la côte nord-est des États-Unis. Plus de 3000 vols ont été annulés ou retardés hier, contrariant des déplacements de millions d'Américains voyageant pour la fête de Thanksgiving, sans oublier nos pages sport et musique. Mais avant, le journal.
Au moins 16 otages, dont un missionnaire polonais, enlevés ces deux derniers mois par des rebelles centrafricains, ont été libérés hier. Des détails avec Lionel Gaïma.
La libération du père Matthäus Dietzig, enlevé le 12 octobre à Babois, dans l'ouest de la Centrafrique, avait d'abord été annoncée par le ministère polonais des Affaires étrangères. La présidence camerounaise a ensuite confirmé la libération du prêtre et des 15 otages camerounais qui avaient été enlevés le 20 septembre et le 24 octobre par un groupe armé centrafricain dans l'est du Cameroun. Le gouvernement polonais avait précisé à l'époque que les ravisseurs du missionnaire polonais exigeaient la remise en liberté d'Abdoulaye Miskine, un chef rebelle centrafricain détenu au Cameroun. Le président Paul Biya a salué la contribution de son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur dans la crise centrafricaine, à ses libérations. Mais le communiqué n'en précise pas les circonstances.
Six casques bleus et un Congolais ont été arrêtés hier après-midi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour détention illégale d'uniformes de l'armée congolaise. Des détails avec Henri Francisca.
Les six Ukrainiens ont été arrêtés après avoir quitté l'aéroport dans un bus MONUSCO avec le fournisseur de la marchandise, un Congolais, a affirmé à l'AFP le lieutenant-colonel Olivier Amouli de la cellule de communication des forces armées de la République démocratique du Congo. Selon Charles Bambara, porte-parole de la mission onusienne citée par l'AFP, ils sont détenus à Goma sous l'accusation de possession d'uniformes congolais. Six tenues neuves de la garde républicaine, unité chargée de la sécurité du président congolais Joseph Kabila, ont été découvertes dans leur minibus, a déclaré de son côté le général de brigade Emmanuel Lombé, commandant de la région militaire qui couvre le Nord Kivu, la province dont Goma est la capitale. Ils ont dit qu'ils comptaient les utiliser chez eux pour la chasse, après la fin de leur mission, a-t-il ajouté.
Au Nigeria, le procès d'une adolescente âgée de 14 ans et accusée d'avoir tué son mari de plus de 20 ans, son aîné, a repris hier avec le témoignage d'une petite fille soupçonnée d'avoir acheté l'arme fatale. Michel Joseph.
La haute cour de Jezawa, en périphérie de Kano, accuse Wasila Tassiou, 14 ans, d'homicide volontaire pour le meurtre d'Oumar Sani, 35 ans, deux semaines après leur mariage dans le village d'Ongowar, Yansoro. Une petite fille de 7 ans, nommée Hamziya, a témoigné disant avoir reçu 80 naira pour acheter de la morora le 5 avril, le jour où le mari a été empoisonné. Ce témoignage a été appuyé par Abouwa Youssouf, un commerçant qui a vendu le poison. La jeune épouse est accusée d'avoir mélangé du poison à la nourriture qu'elle préparait pour la fête nuptiale. Le procureur Lamido Abba Sorondiki a dit avoir 6 autres témoins à présenter, mais le juge a ajourné le procès jusqu'au 22 décembre. Wasila Tassiou a plaidé non coupable. Elle encourt la peine de mort, mais aucun mineur n'a été exécuté au Nigeria depuis 1997. Son procès relance la polémique sur le mariage de mineurs dans une région majoritairement musulmane.
Le président guinéen a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il ne tolérera aucune manifestation pendant cette période de l'épidémie d'Ebola. Alpha Condé répondait à ses opposants qui menacent de descendre dans la rue pour réclamer la recomposition de la CENI, la commission électorale. La Guinée doit accueillir le président français François Hollande ce vendredi et pour Alpha Condé, c'est un symbole fort. Le point avec Zakaria Camara à Conakry.
Il y a quelques problèmes dans l'utilisation des fonds donnés à la Guinée pour lutter contre Ebola, a révélé le président guinéen devant la presse. Problème de visibilité qui amène Alpha Condé à demander plus de transparence. On doit savoir où va l'argent et qui fait quoi. Car la Guinée, précise le président Condé, ne touche à aucun dollar. Même si l'évolution de l'épidémie semble stable, quelques obstacles demeurent. Et le président guinéen d'appeler les journalistes à plus d'implication dans la sensibilisation des populations.
On a deux grands problèmes. Le premier, il faut que vraiment vous nous aidez, c'est la sensibilisation. Il faut que les gens acceptent que les médecins aillent voir des contacts. Si on ne fait pas ça, on ne pourra jamais finir la maladie.
S'agissant de la menace de l'opposition de redescendre dans la rue pour réclamer, entre autres, la recomposition de la CENI, le président Condé est ferme. Pas de manifestation pendant la période d'Ebola.
Si vous voulez discuter de loi électorale, c'est au Parlement. Si vous voulez discuter de la CENI, c'est au Parlement. C'est pas dans la rue. Tout le monde est député. Donc c'est au Parlement qu'on doit discuter.
Ebola qui n'aurait pas empêché le président français d'effectuer une visite à Conakry pour le président Condé, c'est un symbole fort. Cela veut dire que tout le monde peut venir en Guinée, conclut-il. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Le premier vaccin expérimental contre le virus Ebola à faire l'objet d'un essai clinique aux États-Unis a été bien toléré et a déclenché une bonne réponse immunitaire. C'est ce que montrent les premiers résultats prometteurs publiés mercredi. L'Institut des allergies et des maladies infectieuses envisage de mener ses essais cliniques dits de phase 2 et 3 en Afrique de l'Ouest en 2015 et précise avoir à ce sujet des discussions avancées avec les responsables du Libéria et d'autres pays.
Et puis cet appel au secours, la Sierra Leone demande l'envoi de militaires américains pour l'aider à faire face à l'épidémie d'Ebola. Ce pays, contrairement à la Guinée et au Libéria, continue de rencontrer des difficultés dans la lutte contre la fièvre hémorragique. Les précisions de Timothée Donangmaye.
Le dernier bilan de l'OMS publié hier fait état de près de 5700 décès liés à l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Alors que l'épidémie semble s'atténuer au Libéria grâce à l'appui de l'armée américaine et en Guinée, le taux de nouvelles infections est en augmentation en Sierra Leone. Le ministre sierra-léonais de la communication, Alpha Kanou, que cite l'agence Reuters, a dit qu'il espère qu'avec l'amélioration de la situation dans les deux pays voisins, le président Barack Obama demandera au Pentagone et au département d'État de se pencher sur la Sierra Leone. Il a appelé Washington à également aider la Guinée. De son côté, le président guinéen Alpha Condé a fait savoir hier qu'il est prêt à autoriser le recours à la force contre quiconque s'oppose aux efforts des médecins en vue de détecter de possibles cas d'Ebola.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des frappes du régime syrien ont tué près de 100 personnes à Raqqa, fief du groupe État islamique. Les États-Unis, par la voix de la porte-parole du département d'État, Jen Psaki, se sont déclarés horrifiés par ces informations. Pendant ce temps, une délégation gouvernementale syrienne a rencontré Vladimir Poutine en Russie pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie.
Crise en Ukraine, le haut commandant militaire de l'OTAN affirme qu'un grand nombre de troupes russes sont encore en activité dans l'est de ce pays. S'adressant aux journalistes à Kiev hier, après une réunion avec de hauts responsables ukrainiens, le général américain Philippe Bridlov a soutenu que ces troupes constitueraient l'épine dorsale des séparatistes qui se battent contre Kiev. Le général Bridlov a déclaré que son pays va soutenir l'Ukraine sur les plans financiers et matériels. Il ajoute aussi que les États-Unis vont mettre à disposition des experts pour aider l'Ukraine à répondre plus efficacement à la situation dans l'est de ce pays.
La production mondiale de pétrole va-t-elle augmenter? L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, devra prendre une décision ce jeudi à Vienne. Après des années de stagnation entre 100 et 120 dollars, le prix du baril de Brent a chuté de plus de 30% depuis le mois de juin, sa plus forte dégringolade depuis la fin 2008. Les ministres des 12 pays de l'OPEP doivent se retrouver dans la matinée à son siège, situé dans la capitale autrichienne, pour élaborer un compromis.
Et ici aux États-Unis, les manifestations se sont poursuivies pour la troisième journée consécutive depuis la décision d'un grand jury de ne pas inculper un policier blanc dans la mort d'un adolescent noir non armé dans la ville de Ferguson, dans le Missouri. Hier, des centaines de personnes ont manifesté devant la mairie de Saint-Louis, scandant « Honte, honte !» La police de Ferguson a chiffré à 58 le nombre des arrestations lors de la deuxième nuit de protestation.
Enfin, plus de 3000 vols ont été annulés ou retardés hier aux États-Unis, où le mauvais temps sur la côte nord-est est venu contrarier les déplacements de millions d'Américains voyageant pour la fête de Thanksgiving. Claire Morin-Gibourg.
La pluie et parfois la neige sont tombées en abondance sur la côte est des États-Unis. Des précipitations habituelles pour la région, les chutes de neige n'ayant pas dépassé quelques centimètres à New York, Philadelphie ou Boston. Mais 46,3 millions d'Américains avaient prévu de voyager pour la traditionnelle fête de Thanksgiving ce jeudi, selon l'association automobile américaine AAA. Sur les routes, c'est le long week-end le plus chargé de l'année, avec 41,3 millions d'Américains empruntant leur voiture contre 3,5 millions qui voyageront en avion. Si les routes ont été très encombrées, les aéroports ont été vite surchargés également, avec des centaines de vols annulés et plusieurs milliers retardés. La fête de Thanksgiving, célébrée le 4e jeudi de novembre, est très importante pour les Américains qui se retrouvent généralement en famille, parfois pour la seule fois de l'année, autour d'un repas quasi immuable, dinde farcie, sauce aux canneberges, purée de patates douces ou de pommes de terre et tarte à la citrouille ou aux noix de pécan. Selon l'AAA, la distance moyenne parcourue par les Américains pour fêter Thanksgiving cette année sera de 883 km aller-retour.
Voilà, vous écoutez VOA Afrique, il est 5h41 en temps universel. Minuit 41 ici à Washington, c'est tout donc pour la partie journal. On passe donc à la partie magazine. Avec le Niger, le droit des femmes passe aussi par les droits et devoirs de la famille. À ce propos, le Niger souffre de l'absence du code de la famille qui permettrait une nette amélioration de la situation des femmes et des filles, estime Binta Massaoudou, représentante de l'ONU Femmes au Niger. Au micro de Nathalie Barge, la juriste annonce un avant-projet de loi contre le mariage précoce et l'union forcée des enfants, entre autres avancées au plan législatif.
Il faut le dire, au Niger, le plus grand problème que nous avons en matière de respect des droits de la femme, c'est surtout l'inexistence d'un cadre juridique légal qui statue sur la famille nigérienne. Actuellement, malgré les différentes tentatives qui ont été faites pour l'élaboration d'un statut personnel ou d'un code de la famille nigérienne, ces tentatives sont restées vaines. Alors qu'à travers ce statut juridique, aujourd'hui, la femme pourrait s'octroyer plusieurs droits qui, actuellement, lui sont refusés. Mais il faut dire aussi que nous avons beaucoup d'espoir. Parce que avec les nouvelles autorités, nous avons senti un certain engagement, notamment quelques avancées sur notre législative par rapport aux droits des femmes. Et actuellement, au niveau du ministère de la Promotion de la Femme, nous avons l'élaboration d'une stratégie qui est en train d'être faite, d'un avant-projet sur les violences basées sur le genre. Et aussi, dernièrement, nous avons une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale en faveur des femmes par rapport au quota qui a été rehaussé pour la participation politique.
Où en êtes-vous au niveau de la lutte contre le mariage forcé, le mariage des enfants?
Je pense que la majorité des actions qui sont faites par le ministère de la Promotion de la Femme sont des actions de sensibilisation et de plaidoyer au niveau des leaders d'opinion. Comme vous le savez, souvent, ces mariages précoces et ces mariages forcés se font dans des endroits très reculés, souvent des centres de ville, où l'accès à l'information est pratiquement inexistant. Donc, le Niger, à travers son ministère, est accompagné par les ONG et partenaires, fait des actions de sensibilisation et de formation des leaders d'opinion qui peuvent amener les changements de comportement au niveau du groupe cible en question. Et actuellement, nous sommes sur l'élaboration aussi d'une loi, un avant-projet de l'élaboration d'une loi par rapport au mariage précoce et au mariage forcé. Et je pense que la mobilisation est totale au niveau de toutes les ONG et associations et au niveau du gouvernement aussi pour lutter contre ce fléau.
Alors au niveau de l'excision, où en êtes-vous également?
L'excision n'a pas un pourcentage très élevé. Pourquoi? Parce qu'au niveau du nouveau code pénal nigérien qui a été modifié, l'excision a été considérée comme un crime. Donc là, c'est une avancée sur le plan législatif que nous avons. Désormais, ces arts d'instruction sont considérés comme des crimes. L'esclavage, l'excision, c'est parti. Donc c'est une avancée aujourd'hui au niveau du code pénal nigérien.
Voilà, c'était Binta Massaoudou, représentante de l'ONU Femmes au Niger. Et ne manquez pas l'entretien intégral de Binta Massaoudou, militante des droits humains et représentante donc de l'ONU Femmes au Niger, ce samedi à 19h35, temps universel, dans le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Voilà, depuis plusieurs années, les activités touristiques ont cessé dans le nord Mali à cause de l'insécurité et de la guerre. La direction régionale du tourisme et de l'hôtellerie n'est presque plus en activité. Les artisans n'arrivent pas à écouler leurs produits et les personnes qui servaient de guides touristiques sont dans l'obligation d'exercer d'autres métiers pour survivre. Le tourisme pourra-t-il reprendre un jour dans le nord du pays? Les professionnels perdent espoir. Reportage de notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
Les enlèvements de véhicules et les prises d'otages dans le nord du pays ont eu pour conséquence l'arrêt des activités touristiques à Gao. La direction régionale en charge du tourisme et de l'hôtellerie, impuissante, constate. Maman Imiran Touré, agent de la direction régionale du tourisme et de l'hôtellerie.
On peut dire même que le tourisme n'existe pas tout de suite. Pour autant, les sites existent, tels que le site de Sanaï, le site de Kankoumoussa, le site de Tombeau des Aska, avec l'insécurité qui prévaut chez nous. Tout le développement touristique est bloqué. Le monde des guides, aujourd'hui, ils n'ont rien à faire. Même les artisans, ça ne marche pas. Les hôteliers, ça ne marche pas.
À la maison des artisans située au château secteur 1, sur les 60 boutiques occupées avant la crise, seulement une vingtaine sont opérationnelles car les artisans ne parviennent plus à payer leur loyer par faute de clients. Mamadou Ngom, membre du comité de gestion de la maison des artisans.
Nous, on pensait qu'avec le retour de la paix, au moins, on allait songer à la maison des artisans. Rien n'est fait. Honnêtement, on n'a rien. Chez nous, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Vous voyez que les produits sont minime, il n'y a pas grand chose. Il y en a qui sont partis, hein. Il y en a qui sont partis. Les maisons sont fermées, vous savez, et les gens sont partis parce qu'il n'y a rien à faire.
Si les artisans parviennent quelquefois à vendre des produits grâce à la présence de la mission internationale, c'est loin d'être le cas avec les guides touristiques. Abdrahman Meiga, guide touristique, fait un peu de tout pour subvenir aux besoins de sa famille.
Actuellement, on fait tout ce qu'on trouve parce qu'on n'a pas le choix. Notre métier aérien n'existe plus, donc on est obligé de faire d'autres métiers. Au niveau serval, nous les guides, on ne peut pas nous faire travailler parce que nous, on découvre le pays et ils sont pas, on n'a pas trop besoin de nous. On n'a pas eu encore d'aide, honnêtement. Moi, je leur dis, il faut pas oublier le Nord, parce que le Nord, c'est la culture du Mali. Et les guides, c'est la culture du Mali. Les guides, c'est eux qui rapportent la culture.
Les autorités maliennes doivent accorder un peu de considération aux guides, car ils sont maliens et méritent aussi de vivre. C'est la réflexion de Alouata Touré, dit le magnifique guide touristique.
Je sais pas, c'est l'État malien qui a oublié les guides du Nord, ou quoi. Et nous, on est là, vraiment, ça galère. Quand on dit guide, on a dit traducteur. Il y a des gens qui parlent bien anglais. Parmi les guides, il y a des cuisiniers. Parmi les guides, il y a des chauffeurs. Mais personne ne parle ni ministre, ni serval, ni gouverneur, ni Mali, ni rien. Alors que c'est les guides qui peuvent mettre le feu dans un pays. Va voir les autres pays. Qu'est-ce qui veut dire guide? Les guides sont respectés. Mais ici, les guides ne sont pas respectés, franchement. Guide, ça veut dire grand-chose, mon gars. Qu'ils ont tenu la guerre, ils sont restés ici. Ils n'ont pas pris des armes. Ils ont dit toujours le Mali, le Mali, le Mali. Et le Mali est là, on ne pense même pas à ces gens-là. C'est dommage.
La reprise des activités touristiques dépend du retour de la paix dans le nord du pays. L'espoir est donc permis à en croire Mahman Imran Touré, agent de la direction régionale du tourisme et de l'hôtellerie.
Il y a des dispositions qui sont déjà prises par l'État. Ce secteur, on y fait beaucoup attention, on y attache beaucoup d'importance. Tout se repose sur le retour de la paix.
La paix souhaitée par tous peut-elle s'instaurer dans le nord du pays? Voilà la réponse du magnifique, notre guide touristique.
Bah écoute, pour avoir la paix, il faut que la jeunesse même a la paix. Il faut manger bien pour avoir la paix. On dit celui qui a faim n'est pas un homme libre. Quand tu as faim, comment tu as la paix? Il y a toujours quelque chose qui cloche. Bon, on est dans le main de Dieu, on verra comment ça va se passer à la fin.
Gao Boubacar Touré sur la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24,
à Bamako sur 102 FM.
Voilà, la fête de Thanksgiving, c'est ce jeudi aux États-Unis, célébrée chaque année le quatrième jeudi du mois de novembre. Elle est l'occasion pour les Américains de se retrouver en famille pour une journée d'action de grâce. Au cœur de la fête, le repas traditionnel dont le menu principal est la dinde, et les diasporas africaines vivant aux États-Unis se sont appropriés le rituel de cette fête, tout au moins dans sa dimension culinaire. Le sens de cette célébration avec Kadiatou Traoré, elle est mère de famille et aussi journaliste à VOA Afrique.
Cette fête de la dinde, nous la retrouvons ici aux États-Unis. Nous ne la connaissons pas là-bas en Afrique. Mais quand même, nous rajoutons aussi notre petite touche. La touche de l'Ouest africaine sur la dinde, il faut mettre beaucoup d'épices. Et on la fait frire d'une manière générale. Nous ne préparons pas généralement les choses en les mettant dans le four. Parce que chez nous, nous ne connaissons pas les fours. Les gens ont tendance à faire frire. Nous la faisons bien frire dans de l'huile. Et nous la faisons bien dorée, mais avec beaucoup d'épices, ce qui fait que ça sent très bon. Et chez nous, en Afrique de l'Ouest, nous aimons utiliser beaucoup, surtout particulièrement au Mali, dans nos mains, nous utilisons beaucoup de l'ail, on utilise beaucoup de poivre, nous utilisons beaucoup d'épices qui viennent de l'Orient et qui embaument nos sauces.
Mais en dépit de ce que c'est une tradition empruntée à votre pays d'accueil, est-ce que vous avez l'impression que les gens venus d'Afrique de l'Ouest adhèrent à la fête de la Thanksgiving?
Tout le monde adhère à la fête de la Thanksgiving ici aux États-Unis. Hein? Du moment que
par obligation ou par adhésion?
Quand vous vivez ici et que vous avez des enfants et que vos enfants partent à l'école, ils suivent obligatoirement cette tradition américaine qui est là. C'est quand même une fête nationale traditionnelle des Américains. Et donc, vous voyez, même si vous ne faites pas, vous ne voulez pas la fêter, et si vous avez des enfants à la maison, vous serez obligé de la fêter parce que à l'école, quand ça arrive, on ne parle que de ça.
Alors, ça veut dire quoi pour vous?
C'est multiculturel. Mm-hmm. Et ça, c'est une autre culture que nous avons acquise ici aux États-Unis et que je trouve parfaitement, vraiment, c'est une belle culture et qui se rajoute.
La culture de rendre grâce.
Voilà, la culture de rendre grâce au bon Dieu et à tout le monde, au moins pendant une période de l'année, et faire la dinde. Moi, je suis arrivé à faire une petite comparaison de cette fête de la dinde qui ressemble un tout petit peu à notre tabaski. La tabaski, c'est une fête musulmane. Et pendant cette fête-là, où on fait le sacrifice du fils d'Abraham, Ismaël, et les musulmans payent le mouton, ils égorgent le mouton, et puis on fait la fête. Et c'est comme ça, parce que chaque famille ici aux États-Unis, pendant la Thanksgiving, se voit le droit d'avoir sa dinde. Le chef de famille se donne l'obligation d'amener la dinde à la maison. C'est une fête familiale, traditionnelle, autour de laquelle on prépare la dinde et tout le monde, toute la famille vient. Si vous avez un fils qui habite peut-être à Chicago ou de l'autre côté à Atlanta, et la famille, le papa et la maman se trouvent là, les enfants se déplacent pour venir dans la cour familiale et ils fêtent ensemble dans l'allégresse.
Voilà, vous l'avez compris, hein, si vous voulez manger la dinde, rendez-vous chez Kadiatou Traoré, mère de famille et journaliste ici à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports. On commence par du football européen suite hier de la cinquième journée de la phase de groupe en Ligue des Champions. Dans le groupe A, 2-0 pour la Juventus Turin qui était en déplacement à Malmö. À domicile, l'Atlético Madrid a laminé 4-0 l'Olympiakos. Dans le groupe B, 1-0 pour le Real Madrid face à Bâle. Liverpool a été tenu en échec 2-2 par Ludogorets Razgrad. Dans le groupe C, 1-0 pour le Zénith Saint-Pétersbourg qui recevait Benfica. Même score pour Monaco qui était en déplacement chez Bayer Leverkusen, 1-0. Dans le groupe D, Arsenal a battu Dortmund 2-0. Même score pour Anderlecht qui recevait Galatasaray. Et pour le reste de l'actualité sportive, nous retrouvons Timothée Donangmaï. Bonjour Tim.
Bonjour Bagassi.
En Europe toujours, ce soir, cinquième journée de la phase de groupe en Ligue Europa, avec pour enjeu l'accès aux 16e de finale.
FC Salzbourg, Dynamo Moscou, Fiorentina et Legia Varsovie ont déjà validé leur billet. Plusieurs matchs ce soir, avec notamment le duel en tête du groupe A entre Villarreal et Borussia Mönchengladbach. Même chose dans le groupe B où Torino confronte Bruges. Dans le groupe C, Tottenham en bonne posture affronte FK Partizan. Besiktas aussi pourrait se qualifier ce soir contre Asteras Tripolis. Dans le groupe D, Salzbourg, déjà qualifié, affronte le Celtic. Dans le groupe E, Dynamo Moscou qualifié affronte Panathinaikos. Dans le groupe G, le tenant du titre Séville est en déplacement à Feyenoord et se contenterait d'un nul pour avancer.
Et puis, mauvaise nouvelle pour le Japon suspendu par la Fédération internationale de basketball, la FIBA.
L'auteur du Japon est de n'avoir pas fusionné en une seule ligue, la Basketball Japan League qui compte 22 clubs et la National Basketball League qui en compte 13. Cette suspension prive le Japon des compétitions internationales, ce qui tombe mal pour l'équipe nationale dames nippone en bonne position pour se qualifier pour les JO de 2016 après avoir remporté l'an dernier son tout premier titre asiatique.
En cyclisme, nouveau cas de dopage au sein de l'équipe Astana.
Il s'agit cette fois-ci du Kazakh Artur Fedoseyev, contrôlé positif aux stéroïdes le 16 août dernier, a fait savoir l'Union cycliste internationale. C'est le cinquième cycliste kazakh d'Astana à se retrouver dans cette situation. Tous ont été suspendus en attendant l'issue de la procédure disciplinaire.
Et pour terminer, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain. Hier soir, Toronto a battu Atlanta 126-115. Détroit est tombé face aux Los Angeles Clippers 104-98. Victoire de Houston sur les Kings de Sacramento 102-89. Milwaukee a eu raison de Minnesota 103-86. Défaite de Utah qui jouait contre OKC, Oklahoma City donc, 97-82. Défaite également d'Indiana face à San Antonio, 106-100. Phoenix a battu Denver, 120-112. Et enfin, tard hier soir, Memphis était aux prises avec les Los Angeles Lakers. Après le sport, on passe à la page musicale avec Roger Muntou. Bonjour Roger.
Bonjour Bagassi. La chanteuse sénégalaise Madaba a commencé sa carrière en formant un duo avec Ousmane Diallo surnommé Ouza pour chanter la chanson Africa. Puis elle intègre le groupe Le Lemzo Diamono en 1991 où elle s'est découverte au niveau international. Ce matin, on l'écoute dans My Baby.
Passage de Madaba à Lemzo Diamono a été le plus court car elle n'a fait que 2 ans là-bas.
Plus court, oui Bagassi, mais c'est là où plusieurs personnes l'ont connue. Hein. Elle a même dit dans une des ses récentes interviews que si elle vendait des beignets ou des arachides, hein, les gens viendraient acheter en masse seulement parce que c'est Madaba qui les vend. Après la musique, elle pense devenir restauratrice car elle adore cuisiner.
Madaba, my baby. Merci Roger.
De rien Bagassi, merci à tous nos fidèles auditeurs hein, à ACI 2000 à Bamako.
Voilà Roger Muntou que vous retrouvez dans RM Show chaque jour à partir de 20h temps universel. Ainsi s'achève le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anna Alberson a assuré la mise en œuvre. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. C'était Bagassi Koura au micro. Je vous souhaite une excellente journée en notre compagnie.